Soleil d'un jour, c'est tous les dimanches sur Radio Lac entre 12h et 13h avec Maurice FT. Maurice, bonjour.
Bonjour Frédéric.
Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui?
Quetzaltenango, l'endroit des Quetzals, cet oiseau rare du Guatemala.
On s'en va du côté du Guatemala, Maurice, aujourd'hui.
Oui Frédéric, on retourne au Guatemala, ou plus exactement à Quetzaltenango. Quetzaltenango, c'est une ville qui se trouve à peu près à 2300 mètres d'altitude, dans ce qu'on appelle les hauts plateaux du Guatemala. C'est un peu la ville concurrente, je dirais, de Guatemala City. C'est la seconde ville du pays, d'ailleurs, et j'aime beaucoup ce nom de Quetzaltenango. En fait, c'est un mélange assez curieux sur le plan linguistique, parce que avant l'arrivée des Espagnols, il y avait des Indiens qui vivaient ici, bien sûr, mais vous devez le savoir, pour le Guatemala, au moment où Pedro de Alvarado, le capitaine de Cortés, arrive et envahit le pays, il doit battre certains grands chefs indiens, et en particulier Tecunuman, qui est connu dans tout le Guatemala, qu'on retrouve en statue un peu partout, qui est le héros national indigène, a été battu près de Quetzaltenango. Or, Quetzaltenango, ça n'est pas un mot ni un nom maya. Quetzal, c'est cet oiseau qui a une petite gorge rouge avec un plumage d'un vert absolument intense. Enfin, c'est vraiment la couleur peut-être la plus belle que je connaisse. C'est un vert qui tourne au bleuté comme cela. Et il a deux plumes à sa queue de penne extrêmement longs qui font plus de 60 cm. D'ailleurs, la monnaie du Guatemala s'appelle le Quetzal parce que c'est vraiment l'oiseau mystique par excellence.
C'est l'emblème
du pays. Et Tenango, ça veut dire le lieu, mais c'est de la langue aztèque en fait, c'est de la langue nahua. Donc Quetzaltenango, le lieu du Quetzal, ça a été donné par les Indiens qui ont aidé Pedro de Alvarado et qui sont venus au Guatemala depuis le Mexique pour envahir ce pays en 1524. Alors il y a eu des guerres absolument incroyables, mais l'endroit s'appelait auparavant Chelajur. J'aime bien aussi Chelajur. Chelajur, c'est l'endroit des 10 collines. Et le site précolombien a complètement disparu. Mais en l'occurrence, les Espagnols ont naturellement rebâti à cet endroit. Et c'est une ville assez curieuse. Moi, j'aime beaucoup m'y trouver. Il y a les ambiances comme ça qui nous plaisent. Je me rappelle par exemple d'une matinée de 1er novembre où je me suis retrouvé là au moment de la fête des morts. Vous vous baladez dans les rues. Et il y a une rue très étrange juste avant le cimetière. C'est une ville assez grande, hein, quand même.
Et combien d'habitants?
Disons, grosso modo, on doit avoir aujourd'hui 100 000 habitants au maximum.
Ouais, quand même.
Mais quand on se balade comme ça dans la rue principale, tout à coup, quand on arrive au bout, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a que des boutiques funéraires, vous savez, des funerales alors il y a des cercueils qui sont dans la rue avec du satin, et puis vous avez des fleurs en plastique, et puis un peu plus loin, vous avez les tailleurs de tombes, enfin de pierres tombales, et puis on a l'impression vraiment qu'on peut faire son supermarché pour les morts. Et on se dit, tiens, je dois approcher d'un endroit très fort, et c'est vrai qu'il y a un cimetière absolument fabuleux à Quetzaltenango.
C'est un gros marché, donc. Hein.
Je parle du cimetière.
Oui, non, mais je parle du marché, moi, les marchés
funéraires, c'est ça.
Du produit funéraire. Hein.
Oui, parce qu'on s'y attend pas, c'est-à-dire on se balade comme ça et on tombe sur l'avant-cimetière. Et le cimetière est complètement encadré par un mur extrêmement haut. Et au moment de la fête des morts, eh bien, on s'y balade comme si on était dans un parc. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. Les tombes sont déjà extraordinaires parce qu'elles sont très hautes, très grandes. Ce sont de véritables mausolées avec tous les noms des grandes familles, des marchands, de ceux qui ont été ici au début du siècle pour le café. On a construit des voies de chemin de fer. Enfin, on va essayer un peu de raconter, si vous voulez, l'histoire de cette ville parce que je la trouve assez curieuse. Il faut savoir qu'elle a disparu d'un seul coup en 1902 par un tremblement de terre, qu'on l'a reconstruite en côté néoclassique. Mais ce cimetière, il semble avoir été conservé depuis toujours. Il y a des arbres extrêmement anciens. Au fond, il y a même une colline avec une sorte, un peu comme on aurait des monuments aux morts comme ça dans n'importe quel pays qui a vraiment fait de grandes guerres, une colline avec des escaliers où les gens se baladent. Alors vous avez l'aller-retour comme ça, les femmes bien habillées, les petites familles complètes. Il y a des milliers de personnes le jour de la fête des morts. Il y a des couronnes partout, il y a des fleurs partout. Toutes les tombes sont décorées. Alors il y a à la fois les grands mausolées des familles et puis il y a les tombes tout à fait simples des Indiens parce qu'on est aussi habillés avec des huipils, avec des costumes folkloriques. C'est une région très 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 indienne. Ce sont les Quichés, finalement, qui ont occupé cette région après l'arrivée des Espagnols. Et tous les villages d'alentour sont extrêmement classiques. Enfin, pour moi, c'est le plus beau coin du Guatemala. C'est la plus belle partie du Guatemala. Personne n'y va. Il y a tout de même quelques écoles de langue pour apprendre l'espagnol. C'est une ville qui essaie de faire un peu concurrence à Antigua, dont on a déjà parlé, qui est une ville en ruine aussi, mais qui a le charme colonial. Quetzaltenango, on a vraiment l'impression que c'était rasé, que c'était revu et corrigé, mais ça a beaucoup plus d'allure finalement que la capitale elle-même. Et c'est pour ça que c'est un endroit très concurrentiel. D'autant plus qu'au 19e siècle, au début du 19e siècle, Quetzaltenango, au moment de la première libération de l'Amérique centrale, s'était complètement détaché du Guatemala. Il avait été pratiquement décidé de devenir elle-même capitale des hauts plateaux. Alors on sent tout cela dans l'ambiance locale, et je parle encore de ce cimetière parce que cette façon de l'avoir clôturé, d'en avoir fait une zone de promenade pour ce jour-là, on sent qu'il y a eu des milliers d'habitants qui ont vécu là, et surtout des milliers qui ont disparu à un moment donné. La vie est assez calme, en fait. C'est assez curieux aussi parce que ce même jour, j'ai rencontré à la sortie du cimetière un Péruvien.
Ah, donc le touriste peut aller visiter le
cimetière? Ah oui, bien sûr.
Sans aucun problème. Non, on le laisse rentrer.
Il y a de grandes grilles qui sont fermées le soir. Il y a plusieurs boutiques à l'entrée pour les fleurs. Bien sûr, il y a un marché complet en dehors de mon côté pierre tombale et cercueil de satin. Il y a vraiment un endroit pour s'alimenter éventuellement, parce qu'il y a même des petits restaurants. Enfin, il y a beaucoup d'animation, en tout cas ce jour-là. Et on va chercher les fleurs pour ses morts, on décore tout cela. Il y a vraiment une ambiance de fête, hein. Je vous ai dit, on est en dimanche, on a beaucoup d'allure. Et là, à la sortie, j'ai rencontré par hasard un Péruvien qui vit ici à Quetzaltenango depuis une bonne dizaine d'années et qui est tombé amoureux de cet endroit, et particulièrement des volcans, des sources chaudes, de la forêt de pluie qui se trouve du côté pacifique, de tous ces villages indigènes avec ces marchés absolument incroyables. Et non seulement il est tombé amoureux, mais il s'est trouvé un travail. Il était avocat de métier. Il n'est pas très âgé, il a 30 ans et quelques, mais enfin, il a renoncé complètement à sa carrière. Je crois qu'il travaille dans les télécommunications, ce qu'on appelle Guatel, enfin, les PTT du coin, et simplement parce qu'il est tombé amoureux de l'endroit. Et il a bizarrement racheté une maison qui se trouve à côté du cimetière. C'est-à-dire, vous avez l'angle du cimetière et vous plongez carrément avec cette vue incroyable qu'on peut avoir dans certains quartiers de Quetzaltenango. Vous plongez vraiment sur ces tombes, et puis à l'horizon, vous avez ces volcans, le Santa Maria, par exemple, qui est un cône absolument parfait. Et comme on fait une rencontre dans n'importe quel pays, on a commencé à discuter de la région, on a parlé des Mayas, on a parlé des textiles. Il avait toute une collection de textiles qu'il avait récupéré comme ça en quelques 10 ans. C'est quelqu'un qui vit assez chichement et qui a racheté une des plus vieilles maisons de Quetzaltenango. Elle est curieuse, elle est toute en pierre, elle a une véritable tour de garde comme ça, où il a créé une sorte de pigeonnier au sommet. J'entends par là une petite pièce où il va
vue imprenable sur le cimetière, vue imprenable sur les volcans.
Sur toute la ville, sur toute la ville. Et bien sûr que cette vue sur le cimetière est déjà intrigante, parce qu'on a le côté des vivants, le côté des morts. Toutes les rues de ce petit quartier sont en terre et sont assez sobres. Et finalement, cette vue à la fois sur la nature et sur la ville, je vous avoue que quand on commence à discuter comme ça vers 7h du soir, au moment où les dernières personnes vont sortir du cimetière, toujours animées, il y a maintenant des chandelles, des bougies un peu partout, eh bien, chez lui, vous en allumez aussi, on boit un petit quelque chose, la nuit passe doucement, et je me rappellerai surtout de l'éveil, le matin où le soleil se lève sur les volcans, et puis cette brume à 2000 mètres qui était comme cela couchée, étendue, sur cette ville de Quetzaltenango. Peut-être avec un étranger, mais quelqu'un qui avait compris que le Guatemala était le plus beau pays d'Amérique Latine.
Victor was born the spring of 44 and never saw his father anymore. A child of sacrifice, a child of war, another son. Life was very sad.
hardest time became a circus clown. The greatest happiness he'd ever found was making Russian children glad. Children lived in Leningrad. Children lived in another town, hidden in the shelters underground, till the Soviets turned their ships around. Saw the Cuban missiles down, and in that bright October sun, we knew our childhood days were done. And I watched my friends go off to war. What do they keep on fighting for? So my child.
Poursuivez avec la rencontre de ce personnage, le gardien du cimetière en quelque sorte, dans son manoir.
Oui, presque. Hein oh, la maison est assez extraordinaire. D'abord, vous rentrez par une porte close. J'entends par là, on pénètre d'abord dans une cour en définitive. Le cimetière est muré, une maison l'est aussi. Elle est entourée d'un mur de 2 à 3 mètres de hauteur au minimum. Et puis, vous avez une porte qui elle-même permet de pénétrer dans une sorte de jardin. J'ai lu, c'est assez simple. Il y avait surtout du gazon, quelques arbres, les deux chiens qui se baladaient avec leurs petits. Et puis, surtout cette tour qui m'a beaucoup intrigué, qui était pratiquement le seul immeuble qui était resté debout après ce fabuleux tremblement de terre de 1902. J'ai vu des images de 1902, c'est incroyable. Enfin, il ne restait pas une pierre sur une pierre dans cette ville et qui était devenue la plus riche pratiquement du Guatemala. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre, on en a beaucoup parlé, il s'était beaucoup intéressé à l'histoire. Il était écrivain, un peu poète, un peu artiste, un peu collectionneur. Et dans sa simplicité,
il vivait justement, vous disiez tout à l'heure qu'il vivait chichement.
Ah oui, tout à fait.
C'était de ça, de l'écriture.
Son travail dans les PTT lui permettait, à Guatel lui permettait de survivre, mais c'était vraiment sa passion pour la région qu'il avait arrêté dans cet endroit du monde. Dans sa simplicité, il avait surtout compris comment fonctionnaient les gens du coin. Il était très attaché aussi à la rencontre avec les sorciers, avec les gens un peu curieux du coin, et particulièrement le monde indien. Et on a évoqué surtout l'histoire, justement, que j'évoquais également tout à l'heure. C'est-à-dire le fait que Quetzaltenango, enfin, on ne dit pas Quetzaltenango quand on vit sur place, on dit Shelha. On simplifie le mot Shelahu qui existait avant. Et surtout les bus, d'ailleurs, quand vous cherchez à aller à Quetzaltenango depuis Guatemala, faites attention, ça n'est pas marqué Quetzaltenango, c'est trop long. On écrit Shelha, X-E-L-A. Et en l'occurrence, c'est vrai que c'est assez curieux de penser que cet endroit, au moment où il y a eu les problèmes politiques du 19e, c'est-à-dire au moment où on a décidé de créer l'Amérique centrale, finalement, et de se séparer un peu de tout ce qui était l'Espagne, à partir de 1810 pour le Mexique et pour les différents pays qui vont faire l'Amérique centrale, on va d'abord créer un ensemble complet. Et puis, Quetzaltenango va décider de se lier avec le Mexique, c'est-à-dire va refuser, va couper les ponts avec Guatemala, qui était la capitainerie générale du coin. Et il y aura ensuite, en 1848, là, des guerres incroyables, parce que justement, Quetzaltenango décide, là, en 1840, de devenir la capitale de Los Altos, c'est-à-dire des hauts plateaux qui sont très habités et qui sont très riches, finalement. C'est une ville qui aurait pu devenir la numéro un du pays sans aucun problème, une véritable concurrence qui était naturellement terminée par un bain de sang dans ces années 40, en 1848. En l'occurrence, c'est là qu'on va vraiment créer les petites républiques Mexique, d'Amérique centrale, et qu'on sera obligatoirement détaché de ce Mexique. Les Chiapas, de l'autre côté de la frontière, vont appartenir au Mexique, mais le Guatemala deviendra une petite république indépendante. Et cette époque est assez curieuse parce que dans cette région si riche, 2000 mètres, ça signifie le printemps presque toute l'année, des nuits extrêmement fraîches. J'évoquais la brume du matin, comme ça, on a envie de mettre une petite laine dès que la nuit tombe. Et c'est vrai qu'on a eu froid là. Bon, on était un petit peu alimenté par un peu de boisson pour tenir le coup, comme ça. Ouais. J'aime bien une nuit blanche. Je trouve que c'est toujours fascinant de connaître une région à travers quelqu'un, et surtout à travers l'œil de quelqu'un qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire qui petit à petit s'est incorporé, s'est habitué aux gens du lieu. Et ce qui m'avait fasciné aussi, c'était sa façon d'avoir connu les personnages principaux de tous les villages alentours. Alors Quetzaltenango, il connaissait les écrivains, les peintres, les musiciens. C'est resté une ville extrêmement culturelle, même si on a l'impression d'une chose un peu en ruine, un peu décadente, comme ça. La cathédrale, il n'en reste pratiquement rien, les tours sont tombées, il y a juste des façades, comme ça. Il y a quelques magasins qui ne ressemblent à rien non plus, quelques restaurants qui ne ressemblent à rien. Il y a une pension assez sympathique avec un patron avec qui je discute beaucoup et qui tient l'hôtel du coin, avec un petit salon, comme ça on peut encore servir quelques petits gâteaux ou des cafés. On a l'impression vraiment qu'on vit encore au début du siècle. Et puis, Quetzaltenango a été révélé en fait par l'avenue des marchands et des cultivateurs. C'est-à-dire que quand les étrangers se sont intéressés au Guatemala et qu'ils ont vu que le café poussait très bien et que tout près de Quetzaltenango, là, à quelques kilomètres, vous plongez d'un seul coup jusqu'au Pacifique. Et bon, vous avez cette zone incroyable et volcanique, il y a le Santiago qui est en éruption juste à côté, le Santa Maria que j'évoquais tout à l'heure avec son cône superbe. Mais d'un seul coup, vous descendez sur la côte pacifique, qui est une large bande qui va depuis le Mexique jusqu'au Nicaragua, plus bas. Vous pouvez même descendre jusqu'au sud de l'Amérique centrale. Et cette bande qui fait à peine 100 km de large est une richesse tropicale incroyable. Il y a de la canne à sucre, bien sûr, mais il y a surtout eu le café dans les demi-altitudes. Et c'est là que les Allemands, en particulier, vont s'installer au début du siècle. Donc les marchands, les agriculteurs, les grandes familles de Guatemala vont avoir un certain intérêt pour Quetzaltenango. Et puis 1902, c'est bien sûr la catastrophe, parce que tout cela va tomber d'un coup. Vous imaginez, vous avez votre maison, votre palais, etc. Tout cela est détruit. Et puis, par la suite, on décide de construire un train. Alors ça, en général, quand le train arrive, c'est qu'il y a la richesse. Alors on fait un train du Pacifique à Quetzaltenango. Et puis dans les années 30, tout à coup, on l'abandonne. Il ne roule plus, il ne fonctionne plus. Ça rouille gentiment, tropiques, montagnes. C'est assez propre à ces pays. Hein. Un boom et puis le calme plat. Quetzaltenango, des rues étroites. Une impression que tout vit et que tout meurt très rapidement.
Girl, you know we belong together. I don't have no time for you to be playing with my heart like this. You'll be mine forever, baby. You just we belong. You know that I'm right.
Arrive-t-on à Quetzaltenango, ou plutôt Xela comme...
Oui, Xela, c'est plus facile. Hein. Mm-hmm. Bah, vous prenez un bus, par exemple, depuis Guatemala City, et puis vous allez prendre la Panaméricaine qui permet de rejoindre le Mexique du côté de San Cristóbal de las Casas. Alors, en sortant de Guatemala City, vous allez passer par les classiques qu'on a déjà visités, Antigua, etc. Et puis, lorsqu'on arrive à Los Encuentros, on pourrait descendre sur le lac Atitlán ou partir sur Chichicastenango, et bien, on choisit la route de Nahuala. Nahuala, qui a un marché absolument extraordinaire, un endroit dont je vous ai parlé, où il est interdit, enfin, il était interdit de dormir la nuit pour les étrangers. Donc, vous montrez à quel point les Indiens avaient conservé véritablement la structure de leur village, extrêmement fermé. Et puis là, alors, il y a quelque chose d'assez curieux. Tout à coup, vous montez à 3000 mètres d'altitude. Et là, vous vous retrouvez dans une terre un peu désertique, jaune. Enfin, la pâture typique pour les moutons. Il y a des troupeaux un peu partout. Et encore quelques épis de maïs, mais une sorte de désert avant de replonger doucement vers Quetzaltenango. Vous êtes, grosso modo, en arrivant à Quetzaltenango à, qu'est-ce que je vais dire, 200 kilomètres oui, quelque chose comme ça, 200 kilomètres de Guatemala City, grosso modo. Et là, vous êtes dans une plaine immense, entourée de volcans. Il y a des coups d'œil lorsqu'on arrive dans cette vallée où l'on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de petites villes, de petits villages, de hameaux qui sont couchés comme ça dans cet immense terrain agricole. Et finalement, avec cet ami péruvien, eh bien, après avoir vu cette brume du petit matin, cette lumière incroyable, cette froidure, parce qu'il peut même geler hein, la nuit, on a l'impression souvent d'avoir de la gelée blanche en plus du brouillard, eh bien, il avait décidé de me faire visiter un peu la région et d'aller revisiter certains endroits que je connaissais. Alors nous avons commencé par un village qui n'est pas très loin, c'est une petite ville allongée comme ça, dans une, avec une rue coincée comme ça, on a l'impression d'une sorte de bouchon et il y a une très vieille église qui est l'église de San Jacinto qui est une des premières qu'on a construite au Guatemala avec celle du village voisin de San Cristobal. Ce sont des bijoux assez incroyables, surtout celle de San Cristobal. Quand on pénètre à l'intérieur, il y a véritablement véritablement des dizaines de retables dorés comme ça. Ça a assez bien supporté les tremblements de terre. Il y a quelques destructions à l'extérieur. On a encore une tour un peu mozarabe comme ça. On a l'impression de voir de l'art musulman, des choses en bois. Et ces retables sont assez curieux parce que finalement ils nous rappellent vraiment la richesse de ce 16e siècle avec des statues que les Espagnols ont imposées au Quiché. Il a fallu fixer tout le monde. Hein. C'est ça qui était difficile. Chaque fondation hispanique a été faite à la fois avec ces Mexicains qui les ont accompagnés et puis ces Quichés qui étaient là par milliers aux alentours qu'il fallait fixer dans des villages. Alors Salcaja, c'est un endroit, tout le monde le traverse sans s'imaginer ce qu'on peut y trouver. Et pour moi, c'est peut-être l'endroit le plus précieux du Guatemala.
C'est un tout petit village.
Oui, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui est allongé comme ça sur une seule ruelle. Mmh. Et puis autour, il y a des terrains gazonnés avec un peu d'eau, comme ça, une rivière qui coule doucement. Et rien à voir, circuler. Toutes des maisons fermées, comme ça, closes, les unes à côté des autres. Et puis, quand même, une ou deux boutiques qui vendent des textiles. Et particulièrement de gros rouleaux de textiles. Et quand on s'approche de ces rouleaux, on s'aperçoit que c'est vraiment une matière extraordinaire. Je veux dire par là qu'on appelle ça le raspé sur place. Or, c'est ce qu'on appelle en français de l'icate. L'icate, ça se trouve en Indonésie, ça se trouve aussi au Guatemala, ça existait auparavant au Mexique. Alors, je vous explique ce qui se passe. Parce que quand on a le courage de s'arrêter et puis qu'on commence à passer entre les maisons, qu'on va du côté du gazon, du côté de la rivière, tout à coup on voit des piquets dans les champs comme ça, qui font 60-70 cm de hauteur. Et puis entre ces piquets, sur à peu près 80 mètres, c'est la longueur à peu près normalisée, vous avez des fils qui sont tendus. Et ces fils tendus, quand vous les observez de près, ils sont tous tachés, c'est-à-dire qu'ils sont en faisceau, hein, il y en a plusieurs dizaines ensemble, plusieurs centaines parfois ensemble, et puis vous remarquez qu'ils sont colorés tous les 3-4 centimètres. Alors au départ, souvent, il n'y a que deux couleurs, le noir et le blanc par exemple. Et un peu plus loin, vous voyez des gens qui arrivent avec des c'est difficile à décrire, ce sont des sortes de longs fils, enfin de longs paquets de fils qui sont ramenés sur l'épaule, comme ça, comme si on portait des cordages. Et quand on les étudie bien, en fait, ils sont tous ces fils sont attachés ensemble par un autre fil qui, lui, entoure l'ensemble. Est-ce que vous me saisissez, là? Je veux dire, par là, on crée, si vous voulez, des réserves. Hein, vous prenez, je sais pas, une centaine de fils ensemble, et puis vous en mettez un autre autour, et vous serrez très, très fort. Vous faites des nœuds, si vous voulez, très serrés. Enfin, vous entourez, là, je fais le geste de la main, et vous laissez des parties en clair. Et mentalement, ce sont des parties qui vont être épargnées au moment où vous mettez la teinture. C'est-à-dire que vous créez ainsi 80 mètres, vous plongez ça dans la teinture et la teinture ne s'attache que dans les endroits qui n'ont pas été recouverts par un autre fil. Hein. Alors ça, c'est absolument fabuleux parce qu'ils arrivent sur 80 mètres exactement comme on le ferait avec un ordinateur aujourd'hui, simplement par la mémoire à créer sur cet ensemble de fils des dessins, comme ça. C'est un peu comme du morse, hein, si vous voulez. On a le rythme, point, trait, plus ou moins long, etc. Et puis ils font ça 10 fois, 15 fois, 20 fois, dans toutes les couleurs possibles et imaginables. On peut même recommencer si l'on veut, c'est-à-dire remettre un nouveau fil autour de la première couleur, et ensuite vous reteniez les parties qui sont restées en blanc d'une autre couleur, et là on les détend complètement dans les champs, et petit à petit on a des sortes de peignes assez curieux en bois, où l'on va mettre ensemble ces différents fils, et puis les préparer par la suite pour les mettre sur le métier à tisser. Alors ce qui est fou dans l'icate, c'est que par mémoire, on est capable d'imaginer ce que tous ces fils mis ensemble, les uns après les autres, c'est-à-dire en prenant un fil dans un bobin complet, un autre fil dans un autre bobin, de mémoire, vous aurez créé petit à petit un dessin. C'est-à-dire que petit à petit, en les mettant dans le métier à tisser, en les tissant, eh bien, vous allez voir apparaître un petit bonhomme, ensuite vous allez voir apparaître une étoile, etc. Chaque motif est inventé avant d'être posé sur le métier à tisser. Et on peut même faire des duplicates, c'est-à-dire chaînes et trames, afin que le dessin vibre véritablement. Toutes les jupes des femmes indiennes du Guatemala sont faites ici ou pratiquement à Salcaja.
Watching in slow motion as you turn around.
C'est donc là, Maurice, dans ce petit village qui n'en est pas un, que vous êtes trouvé votre nouvelle passion, donc tisser.
Ben oui, parce que Salcara, c'est quand même troublant de penser que les plus beaux costumes indiens du Guatemala doivent quelque chose à cette petite ville, comme au petit village voisin. Quand je dis petite ville, c'est 7000 et quelques habitants. Hein.
Mais quand même.
Salcara, il y a à peu près 30% d'indigènes, le reste sont des métisses. Et dans chaque maison, vous avez des petites demeures secondaires, enfin des petits hangars secondaires. Alors vraiment minuscules, hein. Ce sont des boîtes d'allumettes comme ça qui font 2 mètres sur 4 et à peine 2 mètres de hauteur. Et là-dedans, vous avez
des stocks.
Non, vous avez 2 ou 3 métiers à tisser. C'est ça qui est fou. Mmh. Ces métiers à tisser à pédale qu'on utilise très peu parce que normalement les Indiens tissent directement avec le simple métier à tisser de ceinture qu'on place dans le dos des femmes. Et là, non. Salcara, c'est entièrement un travail masculin. Donc, c'est vraiment le métier à pédale tel qu'on le connaît.
Donc, grosse production.
Avec justement ces 80 mètres de fil que vous allez choisir de façon extrêmement précise. Vous allez monter cela sur votre métier, fil par fil, pour créer ce motif que vous voyez déjà vibrer, même s'il est encore détaché. Et petit à petit, entre trame et chaîne, eh bien, vous allez créer ces laits de tissu pour les jupes des femmes, parce qu'en fait on ne se fatigue pas trop au Guatemala, c'est-à-dire que la jupe d'une femme c'est simplement un cylindre de toile qu'on serre autour de la taille et chaque village a son motif, donc chaque famille de Salcara, chaque homme a dans sa tête des dizaines de motifs et il va en réinventer de nouveau, créer des modes indigènes comme cela, mais c'est cette mémoire qui est absolument incroyable.
Les couleurs, ben les
oui.
Couleurs de...
et surtout ces motifs, c'est-à-dire imaginez-vous simplement de déposer 300 ou 400 fils les uns à côté des autres pour créer un motif simplement par mémoire. C'est-à-dire d'un fil à l'autre, vous devez vous rappeler quelle est la distance entre les couleurs pour que tout à coup, lorsque vous les mettez ensemble, eh bien, vous voyez apparaître une image. Et bien sûr, quand on le fait en double avec des fils d'argent, etc., ça crée des vibrations absolument somptueuses. Vous avez des mélanges de bleu, de noir et de blanc. Vous avez tout cas du rouge et du vert mélangés. Une façon aussi de créer non seulement les mode indienne, mais de se dire que c'est avec cela plus ou moins qu'on pourra reconnaître une indienne de tel ou tel village. Et on ignore en général que c'est produit en principe par ces hommes de Salcara. Alors dans les petites maisons comme cela, vous avez aussi bien sûr tous les instruments qui permettent le tissage, c'est-à-dire le système en rouet, les roues, ces espèces de roues en bois pour préparer tout cela, etc. Il y a une espèce d'effervescence comme ça, on peut pratiquement dire que le 80% de la population s'occupe de préparer ces tissus et de les vendre. Alors on les vend en lait extrêmement grand, c'est-à-dire qu'on découpe cela ensuite en partie d'à peu près 8 mètres de longueur, donc on peut pas, c'est difficile d'acheter moins de 8 mètres à la fois, et bon, ça permet de faire quelques jupes éventuellement, mais on peut aussi s'acheter un bout de tissu pour faire une nappe ou des rideaux, enfin ce sont des tissus à la main qui sont somptueux, c'est vraiment un travail artisanal fantastique, et dans le village voisin de San Cristóbal Totonicapán, qui est aussi une des premières fondations espagnoles, il y a, comme pour San Jacinto, qui est une petite église que j'évoquais tout à l'heure pour Salcara, une petite église où il y a des sculptures sur la façade avec des arbres, des dessins avec des fruits tropicaux, comme ça. On voit cet art très indien, hein. Et dans le village voisin, avec les beaux retables, il y a aussi la partie principale, c'est-à-dire le chœur avec le retable principal qui lui est entièrement en argent, enfin d'une richesse fantastique. On a beaucoup de peine à trouver la clé, on va des fois la chercher chez les petites sœurs d'à côté ou on essaie de trouver le sacristain, etc. Et c'est une église qui est souvent fermée pour des raisons de sécurité, bien sûr. Et là, on découvre un village parallèle qui est un peu plus loin sur la route au fond de cette vallée qui lui va s'occuper également de la laine, du coton, de la soie. On y travaille beaucoup. Il y a un marché important pour les bestiaux. Il y a des fêtes fantastiques. Et ce sont des gens qui ont pris l'habitude aussi de sculpter les masques en bois pour les grandes fêtes indiennes. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans chaque village différentes formules de danse au moment des fêtes. Alors il faut des masques de blanc, des masques d'indigènes, des masques de chefs indiens, des masques d'animaux, etc. Et bien tout cela est produit également à San Cristóbal. Donc il y a tout un artisanat comme cela parallèle qui est assez intéressant et qui permet petit à petit de créer soit les masques, soit les costumes, puisqu'on est encore dans le...
Quelles sont les fêtes ?
Oh, les fêtes, il y en a tout le temps. La plus belle que je connaisse dans la région, on en parlera peut-être la prochaine fois, c'est celle du 4 octobre, celle de la Saint-François. Parce que quand on est à San Cristóbal ou à Salcara, on aperçoit dans le lointain des falaises. On est assez resserré comme cela au bout de cette vallée. On aperçoit une falaise assez folle comme ça. La rivière pénètre à l'intérieur. Et puis, au sommet de la falaise, on voit déjà une église et puis tout un petit village. C'est San Francisco El Alto. Saint-François sur la hauteur, Saint-François le Bordeaux. Et là, il y a une fête qui a lieu le 4 octobre, qui est naturellement la Saint-François, hein, l'honneur de Saint-François d'Assise. Et là, il y a des danses, il y a un marché, il y a des processions. Chaque village indien a sa fête patronale ou ses fêtes patronales. On peut avoir souvent une dizaine de fêtes dans une année, selon le nombre de saints qu'on a envie d'évoquer. Tout à l'heure, pour Saint-Christobal, rien qu'à pénétrer dans l'église et voir le nombre de retables, on s'imagine que toute l'année, on peut danser, on peut effectivement s'amuser.
Fasciné par les fêtes, Frédéric, eh bien, sachez qu'à Quetzaltenango, on a une fête, par exemple le 15 septembre, qui est la fête la plus importante. J'avoue qu'une fête à 2300, 2400 mètres d'altitude, on sent déjà l'altitude quand on voit ces danseurs, ces musiciens. Et si on sort de Quetzaltenango pour aller à Salcaja, où nous étions tout à l'heure, à San Cristobal, on passe à Cantel. Cantel, en fait, c'est une fleur jaune, hein. C'est un joli nom, d'ailleurs, Cantel, ça chante assez bien. Et il y a aussi des marchés, bien sûr, partout. Là, c'est le dimanche, par exemple, et vous avez une fête importante qui a lieu le 15 août. Et on va également utiliser des masques et des textiles des villages d'à côté. À Salcarrab, alors au contraire, vous auriez, bon, on va choisir une fête à 10 jours près, grosso modo. Là, c'est plutôt vers la fin août, vers le 25 août qu'on va faire la fête. Et le marché a plutôt lieu le mardi. Salcarrab, ça signifie l'endroit des eaux blanches amères. C'est un endroit assez curieux, également à cause de cette rivière qui passe à côté. Et puis quand vous la suivez, vous arrivez justement à Saint-Christobal. Alors à Saint-Christobal, bien, vous aurez une grande fête qui a lieu au moment de la Saint-Jacques, bizarrement, même si ça s'appelle Saint-Christophe. C'est donc le 25 juillet. Et vous aurez un marché, lui, qui aura lieu uniquement le dimanche. Et tout à l'heure, ou la prochaine fois qu'on se rencontrera, on ira à San Francisco El Alto. Et là, le marché, alors le plus extraordinaire du Guatemala, a lieu le vendredi, par exemple. Et la fête principale, c'est bien sûr celle du 4 octobre. Mais chacun de ces villages a donc une fonction différente. Et là, on est peut-être dans la région la plus riche en artisanat, en production. Mais rien n'est pratiquement visible. C'est seulement au moment des fêtes qu'on voit tout cela. Il y a par exemple, juste à côté, c'est le chef-lieu du plus petit département pratiquement du Guatemala, ça s'appelle Totonicapan. Et à Totonicapan, eh bien, il y a aussi des fêtes qui ont lieu en septembre, à la fin septembre, avec un marché. Il y en a même deux par semaine, le mardi, le dimanche. Alors ça, c'est un lieu qui m'a beaucoup touché parce que il y a eu de grosses révoltes au début du 19e siècle, des révoltes indiennes en 1820, grosso modo, qui ont été écrasées également. Et là, il y a même eu un roi. On a élu un roi qui va devenir un roi indien. Et finalement, Anastasio Tsul va disparaître aussi, mais ça va donner beaucoup d'idées au moment des fêtes et des danses. Et là, on va utiliser la moitié des masques qui viennent de San Cristobal, des textiles qui sont faits au Donicapan. Et quand on recherche dans les familles, dans les coffres des familles, quand vous êtes invité dans une famille, systématiquement, les Indiens vont vous montrer ce qu'ils ont gardé comme textile.
C'est-à-dire que tout le monde participe.
Ah oui, c'est une sorte de patrimoine comme ça. Mmh. On a des costumes du dimanche, des costumes de fête. Et à Totonicapan, je crois que la chose qui m'a troublé le plus en vibration, en qualité textile, ce sont ces châles. Des châles énormes. Ils font jusqu'à 60-70 cm de large, sur 2 mètres de longueur. Les femmes portent cela autour sur leur tête ou autour de leurs épaules. Alors, il y en a en soie, il y en a en côté mercerisé brillant, il y en a avec des franges extraordinaires. Puis toujours ces vibrations, parce que majoritairement, ils sont faits justement en ikat, donc avec ces doubles fils. Or, ce double fil, bien sûr que si de mémoire vous avez réussi à créer un motif comme si vous étiez un véritable computer, comme si vous étiez un ordinateur, il n'en reste pas moins qu'au moment où vous préparez le textile, que ce soit sur les métiers à tisser masculins que j'évoquais tout à l'heure, qui sont assez grands, ou sur le métier à tisser féminin, qui est plus petit et moins large, qui correspondrait à peu près à la largeur d'un châle, justement, eh bien, vous aurez obligatoirement quelques tout petits décalages, comme ça, par fraction de millimètre, les fils ne peuvent pas jouer entre eux de façon absolument parfaite, parce que d'abord, le fil qui l'entoure, au moment où vous trempez dans la teinture, etc., il y a toujours une façon de pénétrer à l'intérieur, de créer quelques... Et vous avez vraiment devant vous quelque chose qui bouge comme si vos yeux étaient gênés, comme ça. Hein. On a l'impression qu'il y a une sorte de vibration générale.
C'est comme si c'était vivant.
Ah oui, c'est totalement vivant. Et alors, bien sûr, que des choses faites à la main, en soie, ou dans des matériaux nobles qu'on utilisait jusqu'au début du siècle, la soie n'est pas indienne, hein. La soie est importée. J'entends par là que c'est une habitude chinoise, c'est venu des Philippines, c'est venu d'ailleurs. Mais lorsqu'on a des matériaux nobles comme cela, ou même des cotons très fins, dans la région, on utilise même parfois des cotons bruns. C'est un coton naturel qu'on trouve à l'état brut. Il est déjà brun sur la plante. Eh bien, on a des mélanges de coloris qui, justement, on a envie de toucher, on a envie de regarder. Et dans les familles, au moment des fêtes, eh bien, on vous ouvre les coffres et on vous montre tout ce qu'on a gardé de la grand-mère, de l'arrière-grand-mère. Ce sont des choses tellement précieuses qu'on les conserve. Et je dirais que le patrimoine du Guatemala est encore enfermé, justement, de cette manière. Et on ne le voit qu'au moment des grandes fêtes. Lorsqu'on va, par exemple, dans l'église au moment d'une procession et que vous avez toutes ces femmes, ces enfants, ces jeunes filles, ces hommes aussi. Tiens, dans la région de Cantel, puisqu'on évoquait le village là, qui se trouve juste à l'entrée de Quetzaltenango, on va revenir ce soir parce qu'on peut faire des allers-retours comme ça et puis continuer à discuter avec notre péruvien de service. Eh bien, à Cantel, on ne fait que des mantas. Or, les mantas, ce sont des tissus qui sont uniquement utilisés pour faire, par exemple, les pantalons des hommes. Voyez. Donc, on peut tout à coup être un bon artisan et faire vraiment toute la garde-robe de l'indigène ou du métis du Guatemala, comme ça, sur quelques kilomètres de route. Vous avez passé avec le bus, c'était marqué Shelha, vous n'avez rien du tout, toutes les maisons étaient fermées. Il faut avoir un peu de curiosité, il faut s'arrêter, il faut aller dans les champs, il faut aller au bord de la rivière, s'asseoir et discuter des textiles et des productions. Voir faire un masque, par exemple, c'est tout un art. Et tout à coup, on vous raconte l'histoire du masque.
Mais ils ont fait comment ces masques au couteau ?
Ah oui, carrément, à la gouge, tout simplement. Et puis là, on vous dit, ça, c'est le masque de Tecunuman, le grand chef indien, celui qui a été battu par Pedro Alvarado. Il va sortir dans telle fête, tel jour, à telle heure.
C'est vrai que c'est là que commence la magie. Un peu de couleur, même s'il n'y a rien à voir, arrêtez-vous. Vous trouverez quelque chose du côté de Quetzaltenango.
On se retrouve dimanche prochain.
Volontiers.